Alors, on va faire effectivement le point sur l'élément 4 du projet Commons. Avant ça, je suis très content de participer à ces journées, ces rencontres. Ça fait très longtemps que j'attendais d'avoir l'opportunité de parler avec vous et d'échanger. Étant en toile de fond des projets de formation au sein d'Open Edition et n'ayant pas un accès direct à vous, puisque mes collègues du service livre et revue, à travers les différentes étapes, échange plus souvent avec vous, donc je suis très content d'être là. On va rappeler un petit peu alors l'esprit, le titre de ce moment. L'élément 4 de Commons à vocation, enfin Commons dans le cadre non, l'élément 4 dans le cadre de Commons a vocation à fluidifier l'accès aux services d'Open Edition, Metop et Humani. C'est le mandat qui nous est confié. À réaliser sur un nombre d'années, environ 8 ans, jusqu'à 2029. Dans cette présentation, je vais faire un petit rappel du projet Commons, du cadre, de sa finalité, des publics qu'il concerne. Et évidemment, on va se concentrer assez vite sur la place de l'élément 4, dans ce projet et comment il se situe. Les composantes de cet élément, l'état d'avancement du travail sur les différentes composantes, et enfin, ce qui va vous intéresser vraiment plus directement les enjeux pour vous, les professionnels de l'édition numérique. Un petit rappel OCR, parce que Commons, on l'utilise comme ça, mais en fait, c'est donc un consortium de moyens mutualisés pour des services et données ouvertes en SSS. Sa durée est de 8 ans, avec une phase de construction de 5 ans, une phase d'exploitation de 3 ans. Coup d'envoi, c'était il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, et date de fin en 2029. Là, effectivement, je crois que c'est pas mal aussi de relire un peu quel est le, comment dire, de relire un peu ce que c'est et à quoi ça sert, et de le relire ensemble, en fait. Les acteurs, vous les connaissez, Humanu, Metop, Open Edition. La finalité, c'est donc de proposer un environnement numérique unifié, couvrant l'ensemble du cycle vie du document numérique, de la donnée à la publication, en passant par les outils numériques qui permettent les traitements et les restitutions, avec une dimension science ouverte, en toile de fond, s'assurant que cet ensemble respecte les principes FAIR, que les données et les métadonnées soient faciles à trouver, accessibles, interopérables entre les services et évidemment réutilisables. Nos publics sont variés, les communautés scientifiques, les producteurs de données, les éditeurs évidemment, les utilisateurs académiques pour la recherche, l'enrichissement enfin, des travaux de recherche, les instances de financement et de pilotage, et enfin évidemment les citoyens, on espère faire l'observation que ce travail est aussi utile aux citoyens. Et on verra que ça a une place aussi. Cette évaluation-là dans le cadre de l'élément 4. Donc, un rappel des liens entre les éléments, une architecture logicielle modulaire pour ce qui concerne l'infrastructure. Donc là, c'est donner la possibilité de lier les données et les publications. Un livrable qui est très parlant, c'est l'authentification unique, donc un système single sign-on, qui vous permettrait, je parle encore au conditionnel, de vous connecter à un service et d'avoir accès, par exemple, à Nacala et à Open Edition avec un seul identifiant. Donc, c'est le principe de l'identité fédérée que vous connaissez bien avec des services comme France Connect, par exemple, pour être plus explicite. Le deuxième élément, structurer et héberger de manière innovante. Donc, là, ça concerne la donnée. Il faudrait parfois définir ce qu'est la donnée. Je crois que c'était une question qui était revenue aux rencontres d'Open Edition. Mais en tout cas, la donnée, le contenu. Ou le contenu qui décrit le contenu, la pérennité, la sécurité, l'interopérabilité. Lier données et publications. Donc là, on est véritablement dans l'offre de valeur pour les chercheurs et pour la diffusion des contenus scientifiques. Donc c'est créer une liaison dynamique données-publications, c'est-à-dire le contenu scientifique les documents probatoires, les données qui ont permis d'arriver à un résultat de recherche, prenant en compte les objets éditoriaux complexes, donc avec des documents probatoires ou des données à l'appui de la publication d'un article, d'un contenu scientifique, qui peut être extrêmement varié en termes de forme, en termes de moyens de recueil, par exemple. Des exemples très parlants ont été donnés aussi dans les rencontres, donc l'open edition, donc je ne reviens pas dessus. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'amplification, la fluidification de l'accès aux services, qui passe notamment par construire un moyen de faciliter l'accès à nos services, de les rendre visibles, compréhensibles, et de renforcer les compétences des utilisateurs et utilisatrices pour bien maîtriser ces services. Et enfin, la gouvernance, qui est chargée de la coordination générale du projet et d'assurer son rayonnement international, donc une position de comment en France on se positionne et comment on fait rayonner autour de nous, en fait, la manière de concevoir la science ouverte. On va commencer par cette petite brique. J'aime bien le présenter comme ça, puisque ça représente effectivement les grandes missions et services et outils donnés par nos trois infrastructures. Et pour qualifier un peu l'utilité des services que nous proposons, au lieu d'en faire une liste exhaustive, parce que ça va être très très long, on voit qu'il y a tout un ensemble d'actions que peuvent réaliser nos utilisateurs, nos communautés, de A à Z, littéralement. Et donc, derrière ces actions possibles, il y a d'innombrables acteurs publics, contextes, situations, et ces actions sont reliées à des outils que nous proposons, qui ne sont pas forcément toujours compris, dont le périmètre n'est pas forcément défini, dont on n'arrive pas forcément, enfin, peiné peut-être parfois à comprendre comment dire, la finalité de l'action qu'on peut réaliser avec ces outils. Et ça fait l'objet effectivement de travail de l'élément 4 que de vous faciliter en fait l'utilisation, la compréhension de ces outils, leur utilisation. Du coup, comment on sait vers quel service s'orienter, service ou outil? J'en ai mis quelques-uns, ils ne sont pas forcément représentatifs en termes d'utilisation, du nombre de personnes qui les utilisent. C'est pour donner pour montrer qu'effectivement, il y a énormément d'outils utilisables, soit en consultation, soit en édition, ou pour faire du travail. Et parfois, effectivement, on se pose légitimement la question. Pour y répondre, en fait, on est en train, et c'était l'une des premières briques de notre travail, un catalogue de services dont l'objectif est d'orienter et de guider l'utilisateur vers le service dont il ou elle a besoin, de manière située, c'est-à-dire au moment où il ou elle en a besoin, puisque dans la chaîne d'édition effectivement électronique, il y a une succession d'étapes, de tâches, il y a un workflow, et il y a des besoins qui s'expriment dans une situation précise pour un métier précis. Et il faut qu'on relie tout ça. En identifiant le service, l'utilisateur saura, en fait, verra déjà le service, parce que c'est aussi une des dimensions du projet. Le non-usage est un problème, c'est-à-dire fournir un service qui n'est pas visible n'a aucun intérêt. Ça remet en question l'utilité, c'est-à-dire est-ce qu'un service est utile parce que nous le considérons comme tel alors qu'il n'est pas utilisé, ou est-ce qu'un service utilisé le rend utile? Et peut-être qu'il faut se poser ce genre de questions, donc en donnant une meilleure visibilité et compréhension des services que nous proposons. En situant le contexte de la demande de l'utilisateur, ce dont je parlais tout à l'heure, en l'aidant à préciser son besoin, parfois on veut réaliser une action, mais on formule de manière pas forcément très claire ce qu'on souhaite faire. Donc c'est l'aider aussi, et vous aider les utilisateurs à préciser un besoin, à utiliser les bons termes pour relier aux bons outils, de manière claire. Et enfin, définir la finalité de l'action qu'il souhaite réaliser, puisque toute action, toute tâche se destine à réaliser une action, une ou plusieurs actions. Alors, je vais faire un état des lieux, état d'avancement de ce travail de constitution d'un catalogue de services. Donc, on parle bien des catalogues de services de trois infrastructures. D'abord, ça commence par, comme toute chose, qualifier ce qu'est un service. Et ce n'est pas une chose simple, parce qu'il y a de multiples définitions. Il y a des choses qu'on pense être des services alors que ce n'en est pas. Il y a des composants de services à l'intérieur d'un service, et c'est difficile parfois de définir les deux. Il y a des services invisibles qui rendent des services, donc par exemple des services d'infrastructure dont l'utilisateur n'a pas conscience, mais il vous permet de réaliser l'action que vous voulez faire. Donc dans ce travail-là, il y a un travail de maillage, de trouver des interconnexions et interdépendances. On verra peut-être un petit peu tout à l'heure. Recenser les services par infrastructure, ça c'est effectivement un premier travail. Établir la typologie des publics cibles. On a vu tout à l'heure une enquête très intéressante sur en fait, l'ensemble des fonctions des métiers, une grande partie d'entre nous. Ça ressemblera probablement à la typologie qu'on va adopter. Recueillir les besoins, les formuler. Donc là, ce sera un travail collaboratif, on l'espère. Il n'y a pas de bonne solution sans une bonne connaissance qui on s'adresse, les obstacles, les difficultés que vous rencontrez. Encore une fois, en relation avec cette idée d'utilité. Nous, on considère que c'est un service utile, mais si vous ne l'utilisez pas, ça ne sert strictement à rien. C'est un point de vue personnel que j'exprime, ce n'est pas forcément le reflet de ce que pense tout le monde. Du coup, les travaux à venir dans les 2 années qui viennent, c'est une phase de prototypage. Une fois qu'on a recensé les services, ben, faut designer le catalogue, donc établir les liens fonctionnels entre les services. Les liens aussi des services entre les publics et les services. Il y a des publics, des différents publics pour un même service. Et ça, on va travailler sur des cartes conceptuelles. La phase de construction durera environ 2 ans. C'est à titre indicatif parce que c'est variable. Mais c'est une phase en fait enfin, très importante. Test et développement d'une interface. Oublier effectivement implémentation. C'est une phase qui commencera peut-être d'ailleurs un peu avant. C'est-à-dire concevoir une ergonomie qui est là, dans l'utilité, de guider l'utilisateur. Puisque dans la notion de catalogue, il y a peut-être cette idée que bah, on met une collection de liens et puis vous débrouillez. Mais je pense qu'on ne mettrait peut-être pas plusieurs années à faire ce livrable. Donc le but, c'est aussi de travailler à ça. L'expérience utilisateur. La phase d'exploitation, c'est-à-dire de mise en œuvre de 2025 à 2022. Un espace de formation en ligne, ça c'est là peut-être ce qui est déjà le plus concret, dont l'objectif est de construire des parcours de formation, mais cohérents, encore une fois, avec vos besoins. Et structuré par un référentiel de connaissances et de compétences qui permettra l'utilisation adéquate des services, d'analyser aussi les écarts entre un comportement observé, un comportement souhaité, et de le réduire par de la formation adaptée ad hoc. Tout cela sera déployé sur un LMS en source ouverte qui va associer progressivement les personnes capables de devenir actrices des formations à l'échelon local. Alors là, c'est un projet qui se bâtit sur des années, c'est-à-dire c'est une logique de réseau, de fédération. La forme n'est pas encore totalement aboutie, on l'a en tête, mais on ne peut pas construire un parcours de formation qui fait l'objet d'un consensus ou qui est utilisé, encore cette notion d'utilité à définir en regard de l'utilisation, s'il n'associe pas les personnes, si on ne construit pas avec les pairs ou les destinataires. L'état d'avancement. Donc, un espace de formation en ligne sur Moodle que je vous invite à aller voir. Notre page d'accueil fait l'objet, enfin, elle est très simple, elle ne donne pas forcément à voir ce qu'il y a dedans parce qu'elle est en construction. C'est un projet à plusieurs, qui inclut plusieurs partenaires. Donc, il faut travailler sur l'aspect graphique et l'ergonomie. Enfin, vous pouvez quand même aller voir la page d'accueil. Des formations sont opérées avec Moodle depuis le début d'année. C'est-à-dire que la chaîne logistique des formations qu'on organise au Open a basculé du mail, de Lime Survey qu'on utilisait pour les inscriptions à Moodle qui gère maintenant intégralement la phase logistique des formations. Des formations à l'édition en ligne structurée avec l'Odelan pour les contributeurs et contributrices des plateformes livres et revues. C'est l'une des cibles, évidemment. Au blogging scientifique avec WordPress pour les contributeurs d'hypothèses. C'est les premières formations parce que simplement, c'est les premiers travaux, enfin, les premières réalisations, les premières adaptations qu'on peut faire pour répondre à nos besoins en édition avant d'élargir et de diversifier. Dans les années à venir, proposer évidemment de nouvelles formations dans le cadre de la refonte de l'Odel. Je vous avertis tous, je n'ai pas d'informations sur le calendrier d'arrivée et d'implémentation de l'ODEL. Je sais que les utilisateurs libres seront les premiers concernés. Autour d'un des axes forts de Commons, c'est le schéma Commons Publishing, Open Edition et Metop, donc un schéma commun XML TEI, avec différents qui utilisent donc un moteur de conversion commun pour faciliter en fait le workflow de publication et donner aussi le choix entre les utilisateurs, entre Open Edition et Metop. Au plan opérationnel de la formation, on va vers l'hybridation des parcours. Donc, au départ, c'est beaucoup de classes virtuelles de contact. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura moins plus tard, mais il y aura davantage de contenu asynchrone, tenant compte du fait que vous êtes dans des temporalités, vous n'avez pas de temps, et que les parcours sont destinés à vous permettre d'avancer sur une période un petit peu plus longue qu'une demi-journée, au revoir à l'année prochaine, intercalée par des temps d'échange de classes virtuelles, de remédiation de problèmes sur les difficultés que vous rencontrez, qui sont les moyens de mieux vous connaître aussi, de mieux connaître vos besoins, de les faire remonter, et de rythmer un peu différemment les formations, d'avoir de l'aide sur une période un petit peu plus longue. Vous connaissez bien les hybridations, vous avez peut-être tous participé à le Spoke Kero est un exemple, des parcours qui sont un petit peu plus, voilà, qui se situent sur un temps plus long, puisqu'on approprie mieux les outils et les services, évidemment, sur un temps plus long que sur une demi-journée. J'insiste aussi sur le maintien de la modalité présentielle, c'est une modalité qui est extrêmement importante pour les formateurs et les formatrices, pour le contact avec le public. Donc, il ne s'agit pas de dématérialiser, de fermer le débat. Ça, c'est très important. Enfin, petit ingénieur pédagogique, et je crois que notre gouvernance est tout à fait alignée sur ça, c'est de maintenir cette modalité. Et le référentiel de compétences, qui sera une tâche où Metop sera particulièrement actif. Un espace de formation libre, c'est une petite capture d'écran de comment ça peut se présenter. Là, on voit qu'il y a une succession de briques qui commence de. Voilà, l'inscription, on présente un parcours adossé à un plan de formation, donc on constitue des plans de formation, qui sont des plans internes à Open Edition, puis ça concerne surtout l'ODEL pour l'instant et l'hypothèse avec WordPress, une chronologie du parcours, et après, bon, là c'est beaucoup de classes virtuelles, mais on verra plus tard des ADPE, des contenus asynchrones consultables, adossés à un forum de discussion pour échanger, pour avancer ensemble, pour donner des réponses et construire dans la durée. Un observatoire des usages, donc qui est destiné, qui sera destiné, c'est un peu décalé par rapport à le travail qu'on mène actuellement, documenter les pratiques des utilisateurs et utilisatrices des quatre plateformes d'open edition et des services et outils du Manu et Metop. Donc l'idée, c'est d'étudier les pratiques de recherche, production, circulation d'informations et de savoir de ces publics. Qu'est-ce que vous faites des services qu'on vous propose? Est-ce qu'il y a des non-usages aussi? Ce que je disais tout à l'heure. Mon usage en fait, nous renseigne beaucoup sur la valeur ajoutée des services. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? L'usage détourné aussi, ça peut être un élément très intéressant à explorer. L'identification des compétences sollicitées pour naviguer dans l'écosystème Commons. Effectivement, le but, c'est pas de, j'ai envie de dire, de surboucher le système par un autre service qui rend compliqué, enfin, qui se surajoute à la charge cognitive que vous avez. Donc, c'est vraiment d'identifier les compétences et de faciliter la navigation dans l'écosystème Commons et l'appropriation des services et outils, et pas de galérer pour les utiliser. L'inclusion des publics, donc dans la conception, le prototypage des interfaces de formation et des outils nouveaux. Donc là, c'est la phase de collaboration, phase qu'on va, je l'espère, construire ensemble et répondre vraiment, dans le but de répondre vraiment à vos besoins. L'état d'avancement, donc nous en sommes à la phase d'amorçage. C'est un observatoire qui nécessite beaucoup de matière grise et on est très content en Open Edition d'accueillir nos premiers ingénieurs de recherche, puisque comme vous le savez, nous sommes une structure d'appui à la recherche. Nous n'avons pas beaucoup de travail directement avec des chercheurs pour la partie opérationnelle. Là, ça va changer avec le recrutement d'une chaire de professeur junior et un doctorant. Sciences de l'information et de la communication, on va pouvoir aussi intégrer cette compétence à Open Edition. Maintenant, comment on fait la mayonnaise et le lien entre ces différentes composantes? L'observatoire des usages va rendre compte de la manière, de comment les services sont utilisés avec des analyses quantitatives et qualitatives au fur et à mesure du projet. Il y a une notion aussi circulaire, de la information, elle nous remonte, on améliore les dispositifs. Ça, c'est le point 2, améliorer la connaissance et les caractéristiques et comportements des utilisateurs, améliorer l'accès aux services. Et enfin, ça, c'est un travail effectivement fondamental, c'est l'identification des compétences nécessaires à l'utilisation des services qui va participer à l'amélioration continue de l'offre de formation et la diversification des parcours. Un des enjeux derrière ce travail pour vous, entre autres, puisqu'il y a, comme je l'ai présenté, plusieurs communautés. Je crois que j'en ai parlé pas mal avec pas mal de gens, et effectivement, c'est des discussions qu'on mène à Open Edition qui sont très importantes, sur lesquelles on veut vraiment se positionner, c'est mettre les humains au cœur du travail, de la valeur de l'étude des publications. Favoriser la reconnaissance des connaissances et compétences qui sont mises en œuvre aux différentes étapes du cycle de vie du document numérique. Dans un contexte qui peut apporter un peu de crainte, de confusion, qui est celui des pratiques liées à l'application des principes de la science ouverte. C'est pas une évidence, comme je pense, un petit peu comme le montrent les discussions qu'on a, et on est conscient de ça. Et en résumé, pour finir cette présentation, je voulais juste placer effectivement l'humain, sans parler d'infrastructure de service, d'architecture modulaire, de single sign-on, d'interopérabilité des données, des métadonnées. On parle de beaucoup de dispositifs techniques. On oublie effectivement derrière, ils sont au service des gens qui participent à la qualité des publications scientifiques. Donc c'est bien, et nous on est chargé effectivement, les mangas, de la partie du lien avec l'utilisateur. Donc le but, c'est de produire certes un environnement numérique unifié, mais au service des savoir-faire et savoir-être humains derrière la qualité des publications scientifiques en ligne. Et la qualité, elle tient tout autant effectivement aux producteurs de connaissances, aux métiers qui sont associés à la valorisation de ces résultats. Et les outils et les services qu'on met à disposition informatisés, on est bien d'accord que ce sont des outils. Donc des droïdes, mais derrière, il y a un cerveau, il y a le cœur qui bat. Et je voulais insister sur ça. Et pour finir, j'avais mis savoir-faire au départ, savoir-être. Le savoir-être, c'est en fait, j'ai rajouté ça suite à nos discussions parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous sont dans des problématiques de ce type, c'est-à-dire comment savoir dire non, c'est aux gens qui vous gobent du temps. Parfois, il faut se positionner fermement sur ça, de la diplomatie, du tact. Avec vos différents interlocuteurs. Toutes ces dimensions humaines, en fait, elles sont très importantes, on les oublie. Je me passe à la trappe, en fait, on parle beaucoup de compétences numériques, de clics, de boutons, d'écran, de ce qu'on veut. On oublie aussi que, en fait, nos publications scientifiques, je me suis rendu compte, on parle, c'est aussi ce qu'on mettait en œuvre sur le plan interpersonnel, humain, savoir-être. Et parfois, par exemple, un excès de savoir-être qui remontait hier aux ateliers, c'était la surqualité. Donc, faire des choses surqualitatives avec un biais, en fait, biais de designer, et de faire des choses extrêmement qualitatives sur des enjeux parfois mineurs. Ça fait partie des savoir-être, savoir dire non aussi, savoir se dire non à soi-même. Donc, tout ça fédère effectivement l'ensemble des choses qui sont importantes pour. Utiliser les services correctement et qui participent à la qualité au final, en fait, des publications scientifiques. Tout est lié, c'est le projet Commons, et c'est bon de rappeler en fait que l'humain est au cœur de ce projet. En tout cas, c'est notre vision à Open Edition, et on se battra pour que ce soit toujours le cas, tant qu'on est investi et qu'on partage une vision commune. Je vous remercie de votre attention. Important, parce que je ne le mets pas de ma petite anecdotique, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas. J'en parlerai effectivement à notre gouvernance, j'en parlerai au sein du service STC Formation. Il y aura des instruments de collecte, d'analyse peut-être de données qui seront proposées pour que vous puissiez verser votre voix au chapitre, mais aussi faire des conversations. Je crois que ça participe aussi des choses, ça nous aide aussi à mieux construire nos questionnaire, par exemple. Je vous invite, si vous voulez partager des cas problèmes dans vos pratiques, vous n'arrivez pas à faire ceci, je ne comprends pas comment faire cela, quand on veut faire ceci, je ne trouve pas comment faire, des cas, des situations, problèmes comme ça qui se posent dans vos pratiques, vous pouvez me contacter pour les partager de manière justement, voilà, bref, mais nous, ça nous aide à mieux comprendre, en fait. Voilà, je vous remercie.